Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr.
Oh, once in a while I carry this little darling around. She's almost like a poem. You know, it's all hand done. Itch, you know. Scratched in silver. Ah, oh, she's a beauty. Made for the president of Mexico, and I diverted it for $100 bill. But it doesn't shoot worth a damn.
Some damn fool came along and filed off the top of the front sight there.
Sommaire aujourd'hui, une spéciale western avec deux films états-uniens. D'abord Missouri Bricks d'Arthur Penn, sorti chez Rimini. Le Cavalier électrique, une vraie fausse suite de Jeremiah Johnson que Sidney Pollack tourne en 79, sorti chez Carlotta. Puis nous irons de l'autre côté de l'Atlantique retrouver les derniers titres édités par Artus Film dans sa collection western européen. Le retour de Ringo de Duccio Tessari 1965, Les Tueurs de l'Ouest d'Eugenio Martin, un film de 66. Le premier western avec Thomas Millian. Un dollar entre les dents de Luigi Vanzi, film de 1967. Fury au Missouri d'Alfonso Breccia, là aussi 67. Et Viva Django d'Eduardo Mulardia, un film plus tardif, hein, 1971. Nous allons revenir donc sur ces différentes éditions sorties chez Artus Film qui, hormis Fury au Missouri, sont présentées sous forme de livres comprenant Blu-ray, DVD, avec à l'intérieur des ouvrages riches et passionnants. Et pour rappel, les DVD et Blu-ray Artus Film sont disponibles dans notre boutique en ligne www.lesfilmsdelagorgone.fr. Et j'allais oublier, je vais retraverser l'Atlantique du coup, j'allais oublier, mais on parlera également de La rivière de nos amours d'André de Tott, sorti chez Whiteside. Merci à Mathilde Gibault, Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer western, je suis aujourd'hui accompagné de celui que l'on surnomme le loup-garou picard. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site cultureaupoint.com. Salut Thomas.
Salut GG et bien évidemment, bonjour à toutes.
Brando. Nicholson. The Missouri Breaks.
You have the lips of Salome,
and the eyes of Cleopatra.
We ain't gonna do it because I said we ain't gonna do it!
Now, am I perfectly clear on that, Cal?
I do not. And Jane does not. And the dozen dopes who work for me do not steal horses.
But somebody does, don't he?
Yeah! Adios, amigo.
Do you want me?
Oh, my.
This is what your heart...
Your hand, sir, is on me.
Where's your Creedmoor at, Robert Lee? Where's your cabbage-shooting Mexican pistola with flowers on the handle, Robert Lee? Why don't you go get it?
Marlon Brando.
Well, that settles it.
Jack Nicholson.
Get off! Get off!
In an Arthur Penn film. The Missouri Breaks.
Nous allons débuter cette émission, une fois n'est pas coutume, par un réalisateur que nous adorons particulièrement, Arthur Penn. Et on va parler de Missouri Breaks, un film qu'Arthur Penn, un film d'Arthur Penn sorti en 76, avec quand même Marlon Brando hein, et Jack Nicholson. Alors, en gros, pour faire simple, on est dans le Montana, dans des terres accidentées, donc une partie enfin, des États-Unis qu'on appelle Missouri Breaks, donc qui a donc une géographie un peu particulière, qui a beaucoup plu à Arthur Penn quand il a fait Little Big Man, donc il a voulu y retourner et y installer l'action d'un film. Et là, en gros, hein, pour faire simple, il y a un riche propriétaire terrien qui est un réactionnaire qui utilise, évidemment, parce qu'Arthur Penn, on connaît hein, ses idées politiques, donc qui utilise le pouvoir qu'il a, l'argent qu'il a pour se payer les forces de l'ordre. Le shérif est à sa botte, il élimine tous les gêneurs, il n'hésite pas à les faire pendre, voilà. Et puis, sa fille, elle est plus progressiste, elle est pas en accord avec ce que fait son père. Et elle tombe amoureuse d'une sorte de bandit, de gentil bandit, quoi, de gentil vaurien, qui est dans une bande de mecs, voilà, qui volent un peu des chevaux, tout ça, mais qui sont pas vraiment des méchants, au sens où on l'entend cruel, sanguinaire et tout ça. Et puis son père va engager une sorte de chasseur de primes, un type assez ignoble, mais ignoble. Et donc, le voleur de chevaux, vous l'avez deviné, c'est Jack Nicholson. Très sobre. Et puis, face à lui, il y a Marlon Brando dans ce chasseur, qui est un type quasiment minéral, mystique même, on peut le dire. On sait que le film d'Arthur Penn n'aimait pas beaucoup ce film. Parce que il avait vachement souffert du tournage avec Brando. Brando, il collait des bouts de scénario un peu partout parce qu'il réécrivait tout. Alors, au final, ça marche vachement bien. Enfin, moi, je trouve Brando génial hein, dans le film. Hein. Je le trouve fascinant même. Voilà, c'est Kurtz aussi, quoi. Voilà qu'on voit là. Hein. C'est Apocalypse Notre Coppola hein, quand même. Hein. Et moi, je le trouve assez extraordinaire. Et il y a un jeu du chat et de la souris comme ça qui se met à s'engager entre Brando et Nicholson. Et ce Brando, il est terrible parce qu'il n'a aucune règle comme ça derrière sa mystique, derrière son aspect presque impérial comme ça. Mais en fait, c'est un sale type, il tue tous ses ennemis dans le dos, il est cruel, il est pervers. C'est un salopard, quoi, le vrai salopard, l'immonde méchant. Par excellence. Et évidemment, tout cela ne va pas bien se finir. On est chez Arthur Penn, on n'est pas là pour rigoler, quoi, quand même. Et ça donne un film. Alors, moi, Arthur Penn n'aime pas ce film. Moi, je l'aime beaucoup, en fait. Je trouve que c'est un grand film. On est. Allez. Mot égal vaudé, on n'est peut-être pas loin du chef-d'œuvre. Bon, en tout cas, c'est un très grand western quand même. Hein. C'est un film assez immense. Le film ne va pas marcher. Hein, les gens ne vont pas comprendre du tout ce film très particulier. Et pourtant, c'est un film qui parfois même est à la limite du fantastique. Enfin, c'est un film qui nous amène dans un autre monde. Rarement le western aura poussé aussi loin, en fait, aura été poussé aussi loin dans ses retranchements. Et en plus, c'est très intelligent parce qu'il y a un discours anticapitaliste, mais ce n'est pas un discours.
qui vous assomme là, comme ces films à message. C'est pas un film à message, c'est un film avec, comment dire, une mystique, une aura particulière. C'est aussi un film, ouais, pour moi, très typique de ce qu'a été quand même le grand cinéma, ce nouvel Hollywood, une certaine époque, quand même, où il y avait une vision désenchantée aussi de l'Amérique. Et puis, ce qui est fascinant, c'est que c'est un film qui confronte aussi une façon de filmer qui est très naturaliste à la violence du capitalisme. Parce que ce Marlon Brando, c'est le bras armé du capitalisme. C'est clairement le propos du film, de toute façon. C'est quand même assez génial, n'est-ce pas, Thomas ?
Moi, c'est aussi un film que j'aime beaucoup, effectivement. Mais Jack Nicholson et sa petite bande, ce sont effectivement des voleurs de chevaux, hein. C'est qui sont qui vivent de ça, de voler des chevaux. Et ce sont aussi quand même une sacrée bande de bras cassés. Ouais. Parce que quand ils vont quand même, ils se mettent en tête d'aller voler des chevaux au Canada en se disant ouais, ça va le faire et tout, la police montée, on va faire ça sous leur nez. Mais pas du tout, ça marche pas. Et aussi, à un moment, il y a cette scène où ils veulent voler un train parce qu'ils ont un peu besoin de fonds. Et effectivement, et encore une fois, là, ils s'y prennent comme des branques. Donc, ce sont des voleurs sympathiques. Ce sont des marginaux. Ce sont les personnages que Arthur Penn aime bien, en général, décrire dans son cinéma. Moi, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup parce qu'effectivement, dans le genre western, il est un peu à part, notamment en particulier Marlon Brando, qui paraît-il était ingérable sur le tournage, pour changer un peu. Il y a une séquence, il y a une scène avec un âne, avec un mulet, il paraît que c'est complètement improvisé par Brando sur le tournage. Et j'aime bien l'idée qu'il fait du duel final. J'aime bien ce qu'il en fait. Je trouve ça antidramatique au possible. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi la musique de John Williams, qui pour une fois n'en fait pas trop. Elle est assez sobre. Elle est assez intimiste. Non, pour moi, c'est l'un des meilleurs films d'Arthur Penn. Enfin, Arthur Penn, dans tout ce que j'ai vu, il n'y en a que deux auxquels je n'adhère pas des masses pour l'instant. Mais pour moi, c'est un grand film aussi, même s'il ne l'aimait pas beaucoup. Moi, je crois que c'est par là que c'est avec ce film que j'ai découvert Arthur Penn, en fait. Non, j'ai découvert Little Big Man et ensuite The Missouri Breaks.
Robert Redford.
You go off with somebody else's $12 million horse and you tell me I'm crazy?
Jane Fonda.
Now I'm carrying a crazy woman around wearing shoes from Blooming Birds and thinks she's seen a rattlesnake roundup.
And Willie.
Mom, don't let your babies grow up to be cowboys.
My hero. Have always been cowboys.
The Electric Horseman, rated PG. Now playing. Check newspapers for a theater near you.
Nous restons dans les années 1970, la fin des années 70, un film sorti en 79 avec Le Cavalier électrique, qui raconte l'histoire de Sonny Steele, un cow-boy à la retraite, qui a été 5 fois champion du monde de rodéo, eh oui. Et à la fin de sa carrière sportive, des sponsors le sollicitent. Sonny Steele devient ainsi l'emblème d'une marque de céréales. Il parade avec un costume bariolé orné d'ampoules lumineuses. Un jour à Las Vegas, Steele voit que le cheval Rising Star, qui lui est destiné pour un show, a été drogué. Durant la soirée de gala, il s'en va avec le cheval. Son but est de le remettre en liberté. Les autorités considèrent que Steele a commis un vol. Bientôt, la police va se mettre à sa recherche. Ali, une journaliste en quête de sensationnel, arrive à retrouver Steele. Elle envoie le reportage où il explique son geste et décide de rester avec lui durant son voyage. Alors commence une histoire d'amour pendant qu'il cherche à amener Rising Star vers le lieu de sa liberté. Alors évidemment, c'est tous ces films-là qui sont un peu à cheval avec le western et qui en parlent sans vraiment en parler. C'est pas forcément ma tasse de thé. Moi, Sidney Pollack, je suis pas un grand fan. Je dois avouer que c'est pas un réalisateur qui me parle. J'aime bien Les Trois Jours du Condor, par exemple, des choses comme ça, mais c'est pas un réalisateur qui me parle énormément. Celui-ci, quand même, a un petit côté intéressant parce qu'il y a le côté fin des cow-boys, la fin du rêve américain. On a un peu ce cow-boy Marlboro là, qui arrive, campé par Robert Redford, qui est vraiment... qui vend son âme au diable, en fait. Hein. Et, comment dire, après, moi, la partie, histoire d'amour avec Jane Fonda me passionne pas du tout. Voilà, ça m'interpelle pas plus que ça, mais j'aime beaucoup ce personnage de cow-boy qui finit par se vendre. Ça me rappelle un peu ces personnages, ces films un peu mélancoliques, parce que c'est un film mélancolique, de Junior Bonner, le dernier bagarreur de Peckinpah, ou le Bronco Billy de Clint Eastwood, où c'est vraiment aussi quelque part la fin du rêve américain.
I gotta run to keep from hiding. me, no, I ain't gonna let them catch the Midnight Rider.
Toujours Culture Prohibée. Nous causons toujours des derniers westerns sortis en une émission spéciale western cette semaine. Et nous allons revenir sur Le Retour de Ringo, un film de 1965 avec Giuliano Gemma, un film de Duccio Tessari.
Ma lo chiamavano Ringo. Forse lo conosci?
Montgomery Brown?
Certo che lo conoscevo. Ma non è tornato, capitano. È partito allo scoppio della guerra e non è più tornato. Chissà che fine avrà fatto.
Non è tornato. Era sposato, se non ricordo male. Forse alla moglie farà piacere parlare con qualcuno che ha conosciuto suo marito. Chissà, potrebbe anche offrirmi ospitalità per stanotte, visto che non ci sono alberghi a Mimbres. Si chiama Allie, la moglie di Brown, vero?
You first saw him in a pistol for Ringo.
I kiss at last.
Ringo, the greatest hero of the West. I've come back.
I left one day with my heart, heart full of pain.
I've come back.
I have looked in the faces of friends. Do you look at me as my own?
We all make mistakes. I'll explain afterwards.
You must tell me. You must remember.
They're already dead with fear.
Not yet, but they'll soon be dead. If you really abandon them.
Look at me, Holly, and count the Mexicans who are living here. It's no contest. What if the Fuentes hurt you? It's too much for just one man. And I've got a bad gun hand, too.
Here he is again. Fighting a single-handed battle against injustice.
Me, I need you.
Ringo returning to save his honor. Ringo returning from a long, grim war.
I was dead.
Le Retour de Ringo, donc c'est un western de 1965, qui sort en 65. C'est donc l'année qui suit, évidemment, pour une poignée de dollars, hein, le film de Léon qui lance ce qu'on appelle péjorativement le western spaghetti, mais qui lance en tout cas toute une vague de production de western italien qui va cartonner. Hein. Et c'est un film de Tessari qui est un solide metteur en scène. Tessari qui a fait Les Titans, par exemple, avec Giuliano Gemma.
et Giuliano Gemma, qui est un acteur bondissant comme ça, un ancien cascadeur qui fait toujours des pirouettes cacahuètes, si j'ai envie de m'exprimer ainsi, voilà. Et là, dans ce film, alors la même année, il y a déjà un Ringo, hein, tourné par Tessari, mais celui-là n'est pas vraiment une suite, il est souvent vendu pour une suite. Bon, les deux films peuvent être vus séparément. Le premier film est plutôt un film rigolo, tandis que celui-ci, le retour de Ringo, rigole pas des masses, quoi. Voilà. Là, c'est Ringo, il est de retour de la guerre de sécession et il retrouve sa ville sous la coupe de bandits mexicains. Et donc, au milieu des habitants terrorisés et du shérif impuissant, il voit sa femme aux côtés du chef des bandits. À lui seul, Ringo va entreprendre la reconquête de la ville et de sa femme, bien évidemment. Alors dans les acteurs, il y a Fernando Sancho, par exemple, enfin, tous les habitués du bis italien. Évidemment, on reconnaît le pitch du scénario signé Fernando Di Leo et Duccio Tessari. Alors, Fernando Di Leo, c'est aussi un metteur en scène très intéressant du cinéma italien populaire. Et on reconnaît Ulysse, évidemment. On reconnaît Ulysse qui revient sur son île déguisé en mendiant pour délivrer Pénélope de ses prétendants et retrouver son fils Télémaque. Alors là, Ringo, lui, il va se déguiser en péone, il va délivrer. Alors il ne change pas de visage, hein, donc ce n'est pas très crédible, mais ce n'est pas grave, ça, dans le film, on va dire que ça marche. Il va bien sûr délivrer son épouse et retrouver sa fille, et non pas Télémaque. Mais voilà, c'est un peu le même type d'histoire. Alors on est dans l'après-guerre civile américaine, il y a une partition des New Morricone que moi j'aime beaucoup. Et puis le film a des accents très étonnants. Moi, je trouve qu'il a des côtés, il a un petit côté tragédie assumé, puisque le scénario est inspiré donc de l'Odyssée d'Homère. Mais surtout, il y a des moments où le film est presque fantastique. C'est-à-dire, on a par exemple une apparition fantomatique de Ringo à la fin du film. On a d'étranges moments dans le film. On a aussi des personnages très singuliers. Je pense au personnage campé par Suzanne Scott, de son vrai nom Nieves Navarro, actrice très très intéressante, qui est aussi une des reines du giallo. Et le film mérite vraiment d'être revu parce qu'il a un côté très désespéré, très désenchanté, je trouve, ce film. Moi, je trouve que Tessari, c'est un réalisateur sous-estimé. C'est-à-dire que Tessari, c'est un réalisateur carré. Tout ce qu'il fait, c'est propre. Alors, c'est vrai qu'on lui a souvent reproché parce que, en fin de compte, ses films ne sont pas très latins. Ces films ressemblent plutôt à des bons westerns américains, quoi. Voilà, il a un côté très classique, il fait des cadres classiques, il a une mise en scène plus classique, mais moi ça me convient bien en fait. Puis à La Revoyure, c'est quand même bien, quoi. Faut reconnaître que à l'époque, moi, quand j'ai découvert ce film dans Cinéma de Quartier, l'émission de Dionnet, j'avais enchaîné pas mal de westerns italiens assez baroques, assez fous, assez dingues. Et quand je l'ai vu, il m'a pas marqué particulièrement. Et quand je l'ai revu là, je l'ai trouvé assez voilà, le côté tragique m'a vraiment beaucoup parlé. Je trouve que c'est une des meilleures prestations de Giuliano Gemma. C'est l'une de ses plus intéressantes. Enfin bref, voilà, moi je vous conseille de le revoir. Il y a un chouette livret qui parle des grandes tragédies dans le western européen. Hein, on retrouve le travail de Lionel Grenier, Guillaume Flouret, Vincent Jourdan et Gilles Vanier. Et c'est une bien belle édition, puisque c'est les fameuses éditions Mediabook d'Artus Film, là, qui sont très très belles.
Kiss at last the beloved crown of my land that I left one day with my heart full of pain. I have looked in the faces of my old friends, but now do you look at me as my old friend? And now what happens, you must tell me. You must remember who I am. If you see a man with downcast eyes and ragged clothes walking through your village, don't shout him, but go at his side. I'm that man.
sweetheart, I was dead. To take my place, you shall pay for the space lie. Those who saw me as a runtime man, those who tried to destroy
life has little value compared to death. Another day, another death. Another dollar. His name is Luke Chilson, and he turns his gun belt into a money belt. Every time he kills one of the ugly ones. The ugly ones are worthless men until they're dead. But the ugliest one of all is the one he wanted alive.
Autre édition très soignée aussi, celle qui met en scène le premier western tourné par Thomas Midian, avant même le Colorado de Solima, qui sort la même année, en 66. Je veux bien sûr parler des Tueurs de l'Ouest, qui est une coproduction italo-espagnole réalisée par Liber Eugenio Martin.
Les Tueurs de l'Ouest, effectivement, c'est un western plutôt intéressant qui pourrait être une variation de Rio Bravo, de War Dogs, quelque part. C'est l'histoire d'un chasseur de primes qui, donc, lui, il va quand même jusqu'à flinguer les gens qu'il traque pour pouvoir en vivre, quoi, voilà. Et il est à la recherche d'un hors-la-loi qui est particulièrement dangereux, particulièrement recherché et qui est incarné par Thomas Millian qui vient de s'évader alors qu'il était en route pour la prison de Yuma. Et quand on va à Yuma, généralement, c'est qu'on est condamné à mort. Voilà. Donc il est évadé grâce à la complicité de sa petite amie, une amie d'enfance, et il se retrouve dans une auberge qu'elle tient dans une vallée reculée, assez isolée, et donc tout va se jouer là-bas entre ce chasseur de primes et ce personnage incarné par Thomas Millian et toute sa bande de hors-la-loi, tous aussi patibulaires et cruels les uns que les autres. Alors c'est un western quand même assez violent, il est quand même assez cruel, voire sadique. Il y a des scènes quand même bien sadiques. Et il est présenté ici dans une version intégrale, parce que quand on le regarde en version française, il y a des passages qui ne sont pas doublés. Et on se demande bien comment ils ont fait pour les raccords, parce que je ne vois pas en quoi les enlever, ça a changé quelque chose, et surtout, ça devait faire des sacrés trous.
Ah, je pense que c'était pour que le film fasse une heure et demie, hein, voilà, tout simplement. Par contre, ce qui est aussi intéressant dans le film, que c'est un film quand même pas mal stylisé, il y a pas mal de gros plans, tout ça, parce que à l'époque, le western italien, il est balbutiant quand même encore, hein, c'est intéressant, surtout que Eugenio Martin, c'est un réalisateur intéressant et souvent sous-estimé, mais ce qui est vachement intéressant, je trouve, dans le film, c'est que c'est la performance de Thomas Millian. D'abord, il éclipse totalement l'autre acteur, parce que pendant la première moitié du film, Thomas Millian, il est presque sympathique. On a presque l'impression que c'est lui le héros du film et le chasseur de primes le méchant. ça donne un côté du coup vachement Solima, puisque ça ressemble un peu au Colorado de Solima aussi, cette idée du, avec le péon qui est forcément le coupable puisque c'est un péon. Ça c'est quand même assez intéressant.
Ça va aussi par rapport aux personnages, les personnages qui sont dans cette auberge, c'est sa petite amie qui est une amie d'enfance, aussi des personnes âgées qui tiennent une épicerie dans cette auberge reculée, qui l'ont tous connu enfant, et pour eux c'est un personnage sympathique. C'est un petit garçon qu'on poursuit injustement, qui est injustement accusé par la justice de méfaits qu'il n'a pas fait. Mais au fur et à mesure que le film avance, effectivement, ils vont découvrir le personnage cruel et sadique qu'il est vraiment, avec sa bande de hors-la-loi patibulaire. Et il y a des scènes qui sont vraiment marquantes parce que, effectivement, tu l'as dit, Eugenio Martin, il multiplie les gros plans, des gros plans sur des visages. Alors, des visages, les mecs, ils ont des gueules, quoi. Et c'est des visages qui concupiscents, sadiques. C'est un western. Moi, il a fallu que je le voie deux fois quand même pour mieux l'apprécier. Et c'est un western vraiment intéressant. Et surtout, le fait de situer l'action sur quasiment sur un lieu unique. Hein, je trouve que c'est quand même une prouesse assez intéressante. Donc c'est un western effectivement qui est à découvrir, et comme tu l'as dit, Thomas Millian éclipse complètement le héros du film, qui moi me paraît quand même quand Thomas Millian, on découvre que c'est vraiment une ordure, j'ai quand même l'impression que le héros, il est quand même un peu falot, quoi. Et même le héros n'est pas tout à fait sympathique, hein. Même à la fin, on voit que c'est un personnage dur qui est plus intéressé par l'appât du gain que par autre chose.
Pour compléter un peu, on peut dire aussi que la photo d'Enzo Barboni-Clocher est vachement chouette. Réalisateur de Trinita, quand même, c'est une belle photo. La musique de Stelvio Cipriani est aussi vraiment réussie. Enfin, c'est étonnant, parce que c'est un film qui est totalement méconnu, en fin de compte. Hein. C'est étonnant que ce film soit resté comme ça, totalement méconnu des cinéphiles, des amateurs de western italiens, parce que même si c'est une coproduction italo-espagnole, c'est quand même un très bon western italien qui occupe, paraît-il, qui fait partie du top 20 Tarantino dans ses westerns italiens préférés. Il paraît qu'il l'aime beaucoup. Et puis je voulais terminer en disant que c'est quand même aussi un film adapté du travail de Marvin H. Albert, qui a aussi fait pas mal de séries noires, qui avait inspiré entre autres Le Trésor du Pendu à John Sturges, La Bataille de la Vallée du Diable à Ralph Nelson, mais aussi Tony Rome, le personnage de Tony Rome interprété par, je crois que c'était Sinatra, je ne veux pas dire de bêtises. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment un film qu'on vous recommande, une belle découverte que ces tueurs de l'Ouest.
Je signale à tout hasard qu'il y a un très bon livret écrit en particulier par Emmanuel Le Gagne et un certain Jérôme Potier. Voilà, c'était la partie copinage.
Nadie podrá decir que José mata por placer. Nadie. Miguel, llévatelo. questo era il momento. Sì, lo sapevo. Io ero il gringo, lo straniero. Li avevo tutti alle calcagna, malditos. Erano vicini, li sentivo. Ma ormai era in ballo. Doveva andare fino in fondo. Va avanti, amico. Stringi i denti e va avanti.
Vous écoutez toujours Culture Prohibée, spécial western, et on va vous causer maintenant d'un film qui s'appelle Un dollar entre les dents, un film de Luigi Vanzi, lui aussi disponible en collector Blu-ray, DVD plus livre chez Artus Film, avec Tony Anthony. Tony Anthony, c'est quand même pour moi une sorte de mystère, hein, c'est l'acteur de Blind Man, le justicier aveugle, avec Ringo Starr également. Le film de Ferdinando Baldi, que nombre de cinéphiles amateurs de western italiens ont cherché pendant des années à voir, avant d'être légèrement déçus à la vision du film, qui est certes sympathique, mais pas génialissime. Un dollar entre les dents raconte l'histoire suivante, hein, c'est un film qui est sorti en 67. C'est l'histoire donc d'un détachement de la cavalerie américaine qui convoie un coffre rempli d'or pour le gouvernement mexicain. Le bandit Aguila, prenant la place de l'officier chargé de la réception, le dérobe avec l'aide d'un homme surgi de nulle part, l'étranger. Voilà, alors, l'étranger, en fait, c'est notre ami, enfin, façon de parler, Tony Anthony, le falot Tony Anthony, qui va devenir donc le héros d'une série de films qui centrée autour de ce personnage, l'étranger. Mais lorsque donc l'étranger demande sa part du butin, les hommes d'Aguilar le frappent et l'abandonnent. Trahi et humilié, il est déterminé à se venger et il va éliminer les hommes, enfin, en tout cas il veut éliminer tous les hommes d'Aguilar, les tuer un par un et récupérer le trésor. Eh bien voilà, alors la saga de l'étranger, donc elle met en avant ce comédien qui de son vrai nom s'appelle Roger Petitot. Bon, c'est vrai que c'est pas terrible comme nom, donc Tony Anthony en même temps comme pseudo, c'est pas génial non plus, quoi. C'est un peu comme si je m'étais appelé Rome Jérôme, quoi. Enfin voilà. Ce n'est pas un pseudo. C'est un acteur américain en fait qui fait pas carrière. Il décide d'aller tenter sa chance en Italie. Et puis un dollar entre les dents rencontre beaucoup de succès aux États-Unis, étonnamment, voilà. Sans beaucoup fonctionner en Europe. Et du coup, il va y avoir des suites. On va le retrouver dans Un homme, un cheval et un pistolet en 67, Le cavalier et le samouraï en 68, c'est deux films de Vanzi, Luigi Vanzi. Et puis, on va retrouver Ferdinando Baldi, Pendez-le par les pieds, donc en 75. Le problème du film, c'est quand même. Il y a plusieurs problèmes dans le film. Il y a Tony Anthony. Bon, vous avez compris, je le trouve pas extraordinaire. Mais encore, ça peut passer. Mais je sais pas, il a toujours l'air d'être un peu perdu. On a l'impression qu'il cherche son texte. Enfin voilà, c'est un peu étrange. Mais voilà, il n'est pas du tout charismatique, hein, il faut dire les choses. Le film est un peu mollasson. Il y a quand même des belles erreurs de montage. Il y a par exemple, il y a un moment, il y a un type qui a du sang sur le front et puis c'est dans le plan suivant qu'on lui tire dessus. Enfin, des choses comme ça. Enfin, il y a quand même ça trahit quand même le manque de moyens et puis peut-être un petit peu le manque de sérieux. Enfin, ça sent le petit. C'est plus petit western quand même que ces modèles, parce qu'il pompe quand même pas mal pour une poignée de dollars dans son script et tout, mais bon, c'est pas extraordinaire. Et surtout le deuxième, pour quelques dollars de plus. C'est pas le meilleur de la fournée sortie par Artus Film. Par contre, le bouquin d'Alain Petit sur la saga de l'étranger est très très intéressant, puisque la saga de l'étranger, c'est une saga qui est assez méconnue quand même des cinéphiles, donc le livre est intéressant.
Thank you. 1863. La guerra ha armato la mano del fratello contro il fratello. Il sud è prostrato, in balia dei nordisti che la vittoria ha reso spietati, sanguinari. Sulle piaghe aperte da un esercito vittorioso si accanisce la ferocia di uomini senza scrupoli che hanno fatto della guerra lo strumento della loro avidità. Gruppi di guerriglieri sudisti tentano di opporre una disperata resistenza, ma la ribellione aggiunge nuovo sangue a quello già versato. In questo clima rovente non c'è posto per i deboli, non c'è posto per la pietà.
Nessuna pietà per te, Hank.
Il seme dell'odio ha dato i suoi frutti.
No!
Quest'uomo si è fatto giudice e giustiziere e ha ingaggiato una fredda, spietata guerra personale. Il vento gelido della guerra si era placato, ma il Sud doveva ancora conoscere i giorni della violenza.
Autre film sorti chez Artus Film, mais qui cette fois-ci n'est pas dans un combo Blu-ray DVD, c'est Fury au Missouri, qui est un film d'Alfonso Breccia. Et alors Alfonso Breccia, ben, vous le savez quand même, sous son pseudonyme d'Al Bradley, il a quand même réalisé parmi des films les plus mauvais de l'histoire du bis italien. Hein. Je veux bien sûr parler de, par exemple, enfin, Star Odyssey, par exemple, qui est une sacrée purge pour ceux qui ont eu la malchance de le voir. Il y a aussi des trucs plus rigolos, mais quand même, ils sont quand même vraiment très mauvais, comme Superman contre les Amazones. Et ben là, Fury au Missouri, c'est un peu le haut du panier. C'est quand même parmi ses meilleurs films. Alors après, un très bon Breccia n'est pas un grand film, mais ça reste du coup une petite série B qui peut se regarder. Il y a l'intéressante, la charmante Beba Longcar, et puis il y a Peter Lee Lawrence aussi, qui est un acteur intéressant. Et le film se passe pendant la guerre de sécession, donc Joss voit le capitaine Clifford de l'armée nordiste assassiner son frère. Et bien sûr, pour le retrouver, il s'engage auprès de mercenaires sudistes. Et à la fin de la guerre, recherché pour meurtre, il retourne au ranch. Il retrouve sa fiancée qui a entre-temps épousé Clifford. Joss va préparer sa vengeance. Alors déjà, ça ressemble un tout petit peu au pitch d'un autre western adapté de Marvin Albert, hein, il me semble que c'est La Patrouille de la Violence, quelque chose comme ça. Ça y ressemble, de R.G. Springsteen, ça y ressemble quand même un petit peu. Bon, on va dire qu'il ne le savait pas. Parce que l'histoire de la fiancée qui entre-temps a épousé le pire ennemi, tout ça et tout, ça c'est déjà dans le bouquin d'Albert et dans l'autre film donc. Le film est assez classique en fin de compte. C'est vrai que le film fait plutôt penser à tous ces films avec Audie Murphy, quoi. Voilà, comme justement le film dont je parlais un instant, le film de Springsteen, adapté de Marvin H. Albert. On se retrouve plutôt dans une sorte de copie de ce genre de film. Ce qui est intéressant, c'est que parfois c'est pas manichéen, par exemple les gentils sont du côté des sudistes, c'est quand même assez étonnant, quoi. Voilà, des choses comme ça, c'est plutôt étonnant. Sinon le film est assez bien rythmé, il y a pas mal d'action, et franchement, si vous avez vu les autres films de Breccia, vous savez de quoi je parle, donc, et vous savez que celui-là, donc, il est quand même au-dessus du lot, et c'est pas le meilleur western édité par Artus Film, mais c'est l'un des meilleurs films d'Alfonso Breccia.
vastness of Cimarron, the violence of Red River, the drama of High Noon, and now even more, the might of the Indian Fighter, starring Kirk Douglas. A new place, the far-flung grandeur of Oregon. A new face, one of the world's most beautiful women, Elsa Martinelli.
Cette émission de Culture Prohibée spéciale western, nous allons maintenant parler d'un western. On va retraverser l'Atlantique, on va rejoindre André de Tote. André de Tote qui a été honoré il y a peu de temps d'un coffret collector chez Whiteside, mon cher Thomas.
En effet, Whiteside vient d'éditer dans un superbe coffret avec un livret La rivière de nos amours d'André de Tote. André de Tote qui réalise ce film en 1955 avec Kirk Douglas et Walter Matthau dans les rôles principaux. Kirk Douglas incarne un tueur d'Indiens, en fait. C'est un tueur d'Indiens plus ou moins repenti, qui connaît bien les Indiens, qui les fréquente régulièrement, mange avec eux, etc. Mais c'est quand même quelqu'un qui a la réputation d'avoir été un tueur d'Indiens. Et un jour, qui passait par là et qui rejoignait un fort, il mange avec ses amis indiens et il découvre la fille du chef. Elle lui tape méchamment dans l'œil. Mais entre-temps, il y a deux visages pâles, dont l'un est incarné par Walter Matthau. Eux sont plus intéressés par le lucre que par les squaws. Et en voulant marchander de l'or avec un Indien qui, lui, était plus intéressé par le whisky qu'autre chose, ils finissent par le tuer. Et donc, à partir de là, un premier incident entre les Indiens et les Blancs. Après, ça va tourner un peu au film de siège, mais entre-temps, on a le droit à une romance entre Kirk Douglas, cette actrice Elsa Martinelli, qui était, il faut dire, plutôt belle. Donc c'est un film qui fait un peu la part belle au grand paysage. Hein. C'est très très emphatique, très beau, très très romantique avec une musique de Franz Waxman, si je me souviens bien. Donc c'est un film assez romantique, jusqu'à la séquence du siège du fort, où là, on a droit à du pur André de Tote. André de Tote, hein, il avait cette tendance à faire des films assez secs, assez âpres, où il n'y avait pas de musique, et il basait tout sur le travail de la bande-son. On entend les chevaux galoper qui tournent autour du fort pour l'ensabler avec la poussière. C'est un film assez qui devient assez âpre, assez violent dans sa dernière demi-heure, sa dernière partie. Et finalement, évidemment, Kirk Douglas, ce personnage, ce tueur d'Indiens, va être pris à partie par les colons qui pensent qu'il les a trahis. Donc je pense que c'est un grand film d'André de Tote. André de Tote qui est quand même un réalisateur encore aujourd'hui méconnu et plutôt mésestimé, alors qu'il a fait des grands films et qu'il a inspiré des grands réalisateurs, dont Jean-Pierre Melville, entre autres. Donc c'est un film, si vous ne le connaissez pas, à découvrir. C'est un film que vous aimez et que vous ne voyez plus, vous pouvez le redécouvrir dans ce superbe coffret Whiteside avec un livre signé Philippe Garnier.
I think you knew her, Major, about a year ago.
Nous allons conclure en beauté cette émission spéciale western avec un personnage mythique de l'histoire du western, hein, le fameux Django, hein, qui a été un peu adapté à toutes les sauces dans les films italiens, il y a même des films qui n'étaient pas des Django qui se sont vus retitrer Django ensuite pour que ce soit plus vendeur. Et là, je vais vous parler de Viva Django, plus connu dans l'Hexagone sous le titre W. Django. Hein, c'est un film d'Eduardo Mulargia, un film de 71, avec Anthony Stephen. Anthony Stephen qui a beaucoup travaillé avec Eduardo Mulargia puisqu'il jouait aussi dans Au Tropique du Cancer avec Eduardo Mulargia, donc à la mise en scène. On vous en avait parlé déjà de ce film lors des saisons précédentes. Et dans ce film, Django recherche les bandits qui ont violé et assassiné sa femme. Et sur son chemin, il rencontre un voleur de chevaux qui a soi-disant assisté au meurtre. Celui-ci va l'aider à accomplir sa vengeance jusqu'à ce que Django se rende compte que ce dernier n'est pas complètement innocent, évidemment. Alors, ce film est surtout très intéressant par, une fois de plus, la performance d'Anthony Stephen, qui est un acteur italien, enfin, c'est un acteur qui est d'origine brésilienne, hein, enfin, il a une vie un peu dingue, on en avait déjà parlé dans l'émission, hein, on va pas revenir là-dessus en détail, surtout que dans le coffret, on le fait très bien, puisqu'il y a une interview menée par Kurt Riedel du fils d'Anthony Stephen, qui revient longuement sur la vie très épique de sa famille et de son père, et il a incarné plusieurs fois Django, Anthony Stephen. Il y a eu des films très bien, il y a eu Une longue file de croix, par exemple. Voilà, donc celui-ci est dans la bonne moyenne, Mulargia étant un artisan assez efficace. Et c'est le dernier film dans lequel Stephen incarne Django. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est un film de vengeance, ma foi, assez efficace. Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est aussi un film par moments gaguesque. On sent qu'on est dans le... un peu à la fin d'un genre où on essaye d'autres choses, on essaye, malgré que l'histoire soit très noire, on essaye par moments de mettre une petite note d'humour. Bon, malgré tous les traits d'humour, comme le lit tiré par le cheval, des subterfuges comme ça utilisés par Django pour tuer ses ennemis, malgré des petites scènes un peu comme ça étranges, le film, enfin qui détonne par rapport au reste du film, le film reste assez sympathique parce qu'il a un rythme plutôt soutenu, c'est une série B sans prétention et qui se laisse voir sans être un chef-d'œuvre. Voilà un petit western du samedi soir très sympathique, et je vous recommande donc le livre de 96 pages écrit par Kurt Riedel intitulé Anthony Stephen, le roi du western européen, qui est joint à cette édition. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Di Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Rolandi, le loup-garou Picard and the Last But Not the Least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.